Shalom Ouvracha, Boker Tov les Koulam, Boker Tov, et voilà, on est Yom Revi'i, mercredi, et le mercredi nous avons notre étude ensemble sur la Parashat Hashavua. Alors c'est parti, Parashat Chaye Sarah. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet sans introduction. Parashat Chaye Sarah Rabotai, quoi vous dire? Y a-t-il titre plus paradoxal que celui-là? La Parashat s'appelle Chaye Sarah. Les vies de Sarah. Et concrètement, on ne nous parle pas de sa vie. On nous parle de sa mort. Alors, tous les commentateurs se sont posés sur cette question-là. Et on va dire que non, au contraire, ça vient mettre en valeur le fait qu'on vient faire une conclusion à Espède. On vient faire une conclusion à Espède, un éloge humain, tout ce que vous voulez. Mais dans les faits, on ne va pas parler de Sarah du tout. Et c'est quelque chose de finalement assez compliqué qu'on appelle cette paracha Chaye Sarah, alors qu'on ne va pas du tout parler d'elle. On va parler de sa mort, de son enterrement. Quel rapport entre son enterrement et sa vie? En vérité, il faut bien comprendre que le titre de cette paracha, Veyu Chaye Sarah, ce n'est pas seulement les premiers mots de la paracha. Il semblerait que ce qui est mis en valeur dans la paracha, eh bien, est véritable. Je ne sais pas quoi vous dire. Ma fille est folle. Ma fille est folle. Mais que faire? Que faire? Que faire? Comme elle n'a rien à faire. Elle est complètement malade. Et comme elle n'a rien à faire dans sa vie, dans sa journée, parce que tu comprends... Bah, c'est pas drôle en plus, on parle de la mort de Sarah et tout, ça se fait pas. Mais elle a rien à faire, tu comprends? Combien elle peut ne rien faire avec des zooms et pas des zooms? Moi je la comprends, hein. Je la comprends, c'est compliqué. Son cerveau a rapetissé depuis ces 9 mois de Corona. Il y en a des mecs qui ils perdent l'odorat et tout machin. Ma fille, elle de jour en jour, voilà, elle n'utilise pas ses facultés cognitives. C'est très compliqué, mais c'est Mayesh. Donc, elle s'est réduite dans l'humour. Elle fait du stand-up maintenant. Sa vie n'est qu'un grand stand-up. Bon, voilà, après ce petit intermède, voilà. Voilà, après ce petit intermède de débile. Alors, on peut retourner dans le vif du sujet, mes amis. Donc, je disais Chaye Sarah. Chaye Sarah, c'est quand même très particulier. On va parler de sa mort, de son enterrement, et on appelle ça la vie de Sarah. Alors, il va falloir qu'on comprenne ça en profondeur. Pour pouvoir répondre à cette question, j'aimerais qu'on rentre dans une autre question, mais qui est centrale pour la compréhension de ce qui est en train de se jouer dans notre paracha. On va rentrer 2 secondes dans une Sheela Ilchatit. La notion de propriété est quelque chose qui, dans la Torah, n'a absolument rien à voir avec dans notre société occidentale. Dans notre société occidentale, ce qui détermine ma propriété d'un objet, c'est que j'ai le ticket de caisse, c'est que j'ai le reçu, c'est que j'ai la preuve que je l'ai acheté. Si j'ai la preuve que je l'ai acheté, eh bien c'est à moi, point. Mais la notion de propriété, d'après la loi juive, n'a pas vraiment grand-chose à voir avec « j'ai le ticket de caisse ou pas ». D'après le judaïsme, ce qui détermine la possession, c'est ce que je fais du dit objet. Prenons un exemple tout simple, un exemple qui pourrait se passer partout. Imaginez-vous un homme très amoureux de sa femme, lui offre un diamant, mais alors laisse tomber la taille du diamant, il fait la taille d'un ballon de foot. Ok, un diamant de malade. Dessus, il fait graver ses initiales dans son nom complet, tu sais quoi, et son numéro de carte d'identité, et « Je t'aime, ma chérie ». Yala. Et il la prend dans une balade romantique en hélicoptère au-dessus de l'océan. Et là, à un moment donné, il y a un petit coup de vent, et l'hélicoptère bouge et elle perd son diamant qui va tomber dans l'océan en plein milieu de la zone du triangle des requins mutants à rayons laser incorporés. Et donc, c'est impossible d'aller chercher le diamant à cet endroit-là parce que toute personne qui s'approcherait du triangle interdit, eh bien, se ferait laserifier et manger par les requins mutants. Évidemment, elle est en larmes, l'hélicoptère va se poser et voilà, le couple part dépité. Mais le pilote d'hélicoptère va dans un hangar secret. Dans ce hangar secret, il a mis au point un sous-marin portatif anti-requin mutant laser. Et il prend son sous-marin et il va à l'endroit exact où le diamant est tombé. Il explose les requins mutants laser et il trouve le diamant avec un bras électronique, il le récupère. Et c'est où ? Le lendemain, eh bien, il arrive au marché et il essaie de vendre son diamant énorme. La dame de notre couple vient au marché également et elle voit son diamant. Elle dit, mais c'est Shelly. Et du coup, comment ça s'appellera ? Mais c'est Shelly. Mais oui, c'est Shelly. C'est à moi. Il y a mon nom. D'après la loi occidentale, c'est à elle. D'après la loi de la Torah, ce n'est pas à elle. Pourquoi ? Eh bien, parce que lorsque le diamant était tombé, elle en a fait le Yehush. Elle a abandonné complètement l'espoir de pouvoir le posséder. Et donc, ce n'est plus à elle. Dans la loi juive, ce qui détermine la possession, c'est ce que je fais de l'objet. Si je l'abandonne, ou alors si j'en perds complètement l'espoir de l'utiliser, parce que je l'ai perdu, alors, à ce moment-là, cet objet ne m'appartient plus. Il est efker et n'importe qui peut venir et s'en emparer. Ça, c'est au niveau de la loi pure et simple. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important de comprendre cela ? Eh bien, c'est important de comprendre ça pour une raison très simple. Le premier achat, la première acquisition du peuple juif en terre d'Israël, terre que Dieu a promise à Abraham, mais le fait qu'il l'ait promise à Abraham ne veut pas encore dire que la réalisation a été faite. La première acquisition du peuple juif en Israël est un tombeau. Ça va déterminer notre lien avec la terre d'Israël. Et on peut se demander quoi, c'est pas un peu rastratique, c'est pas un peu Ashkenaz sur les bords ? On achète d'abord un tombeau ? On n'aurait pas pu acheter, je sais pas moi, un champ de pommiers, une belle maison, un tombeau ? Eh bien oui, parce que si la première acquisition en terre d'Israël avait été un champ, une maison ou autre objet, eh bien ce qui aurait déterminé l'appartenance du clan d'Israël à cette terre d'Israël aurait été ce que je fais de l'objet en question. Et si je l'abandonne, et si je pars en exil, et que donc bah, cet objet devient à l'abandon, eh bien ça veut dire que c'est Yehush, ça veut dire que c'est Efker, ça veut dire que quelqu'un d'autre peut s'en emparer. Si la première acquisition en terre d'Israël avait été un objet quelconque, eh bien notre lien avec la terre d'Israël aurait dépendu de cela. Alors que la première acquisition en terre d'Israël étant une sépulture, une tombe, eh bien, qu'est-ce qu'on demande du mec qui habite dans la tombe ? Rien du tout. C'est-à-dire qu'on ne lui demande pas de faire une action X ou Y. Il est là, point barre. L'appartenance est là, quoi qu'il arrive. En d'autres termes, le fait que le premier acquis du peuple d'Israël en terre d'Israël soit une tombe montre et va cristalliser le fait que notre lien avec la terre d'Israël ne dépend pas de ce qu'on va en faire, ne dépend même pas de si on y est ou pas. On est lié à cette terre d'Israël de manière intrinsèque, profonde, quoi qu'il arrive. Et donc, même si on part en exil pendant 2000 ans, eh bien, quand on revient, c'est notre terre. Ce n'est pas seulement une réalité historique, mais c'est une réalité extrêmement profonde au niveau de la conscience et de l'identité. Ainsi, Sarah, bah, toute sa vie a été en machloquette avec Abraham sur ce sujet-là. Lo yirash ben ama azim ben yitzrak. Elle a dit la semaine dernière à Abraham, ce n'est pas cet enfant-là qui héritera avec mon fils, avec Yitzrak. Toute la guerre de Sarah avec Abraham, c'était à propos de l'identité d'Israël sur la terre d'Israël. Elle s'est battue pour cela. Ainsi, sa mort va obliger Abraham à s'implanter en terre d'Israël. Jusqu'à présent, il ne s'y est pas implanté. La mort de Sarah va en fait de facto être la victoire de sa vie. Parce que la mort de Sarah obligeant Abraham à acheter un territoire, à rentrer concrètement, prendre possession de la terre d'Israël, eh bien, va déterminer que Sarah avait raison et que l'identité d'Israël passera par ce territoire. En d'autres termes, la mort de Sarah est la victoire de Chaye Sarah. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, le titre de la paracha est tellement, tellement approprié. Évidemment, quand on regarde dans le verset, eh bien, on va vite se rendre compte que cette dualité, j'achète un champ, j'achète une sépulture, c'est ce qui est au cœur du débat entre Abraham et Ephron. Ephron ben Sohar, qui est celui qui a gardé ce territoire. Abraham, vous la savez, le Midrash nous dit qu'il avait déjà découvert cet endroit-là depuis qu'il avait couru après son veau. Lorsque les anges sont venus lui rendre visite, le veau était arrivé jusqu'ici, à Maat HaMarpela, et il avait vu une lumière incroyable sortir de la grotte, il avait compris que c'était la lumière du Gan Eden, que c'était l'entrée du Gan Eden, que c'était là où avaient été enterrés avant lui Adam et Chava. Et donc, lui, il demande à Abraham, à Ephron, de lui acheter, c'est marqué ici dans le texte, « Veiten li et me'arat HaMarpela asher lo ». Il veut acheter la Mehara, la grotte, parce que la seule chose qu'on peut faire d'une grotte, c'est une sépulture. Et Ephron lui répond, mais attends, mais moi, je peux te vendre le champ avec la Mehara à l'intérieur. Toute la dualité est là. Est-ce qu'on va vendre un champ à Abraham, et avec toutes les problématiques qu'on a évoquées, ou est-ce qu'Abraham va acheter une sépulture? Eh bien, Abraham achète une sépulture et on lui donne le champ avec. Mais il achète une sépulture. Maintenant que eh bien, l'identité d'Israël est bel et bien ancrée, ça y est, alors on peut s'occuper de la suite. J'ai envie de te dire, le début de la paracha de Chaye Sarah, d'ailleurs, entre parenthèses, il y a une petite allusion qui est très sympathique, qui est amenée ici par le Gaon de Vilna, qui nous dit, quand on regarde la paracha, on va regarder qu'il y a plein de notions, plein de fois où la notion de mort, c'est-à-dire de personne morte, qui va être enterré dans la paracha, dans la Mehara. Regardez, je le dis très très rapidement. On dit Vayisravayi Chayisara Mehashana Vesrim Shana Veshela Shanim Shene Chayisara Vatamot Sara Bekirat Arba'i Chevron Beretz Kenan Vayavo Avraham Mispod Le Sara Velifkota. Et là on nous dit Vayavo Vayakom Avraham Me'al Penei Meto Vayedaber Benechet Lemor Ger Vetoshav Anochi Imachem Teluya Achuzat Kever Imachem Veikbera Et Metim Lefanai. C'est la première fois on nous dit je vais enterrer mon mort devant vous. וענו בנחת אברהם למור לו, שמה היינו אדוני נשיא אלוהים אתה בתוכנו, ומפרק כברינו כבור את מתיך. דזם פרק ונתיד לתרם, אנטר תומור. איש ממנו את קברו לא יחלה ממך, מכבור מתיך. דזם פרק ונתדי, תשפה אנטר תומור. ועקום אברהם וישתחו לאמר את לבנחת, וידבר איתם למור, אם יש לנפשכם לקבור את מתי. כתחיים פרק. מלפני שמעו נהיו פיגועים ואיפה בן צוחר ויתן לי את מערת המכפלה אשר לא בי אשר בקצה שדהו בכסף מלא יתננו לי בתוככם ואחוזת קבר ואיפרון יושב בתור בנכד ואנפרון אחידי את אברהם באוזני בנכד לכל הישר עירו למור לא אדוני שמעיני השדה נתתי לך והמערה אשר בו לך נתתי עלי הנה בני עמי נתתי עליך כבור מתיך. Donc on est toujours, encore une fois, dans cette dimension de Kvor Metecha. Mais je t'accroche Abraham, l'ifne Amaret, veille d'abber Elephron Beoz, ne m'arrête les morts. Ach, imata, louche, maïnine, tatia, kesef, asadekach, mimeni, vekbera et meti. Vekbera et meti. Otam. Vaya, Elephron et Abraham, les morts, l'eau, adoni, che maïnine, retarba, mot, shekel, kesef, benio, benecha, maï, vet metcha, Kvor. Otam. Vet metcha, Kvor. On en est déjà à 7. Eh bien, on en est déjà à 7, nous dit le Gaon de Vilna. C'est le Remez. Hein? Voilà. C'est le Remez, c'est l'allusion aux 7 personnes qui vont être à partir de maintenant enterrées dans la Mehara. On a dit, il se trouve déjà Adam Vechava, mais il y a donc ici l'allusion à 7 autres personnes qui vont être enterrées dans la Mehara. À savoir, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa, et la tête d'Esav. La tête d'Esav? Ouais, la tête d'Esav. Bon, l'histoire est connue dans le Midrash. On nous raconte que lorsque Yaakov va mourir, tout le monde l'amène de l'Égypte, le ramène en Israël pour l'enterrer. Et lorsqu'ils arrivent devant l'entrée de la Maat HaMarpela, Esav l'attend avec ses hommes et dit, il est hors de question que Yaakov soit enterré ici. S'il y en a un qui doit être enterré à côté de papa, Yitzhak, et de papy Abraham, c'est Bibi, c'est moi l'aîné, c'est à moi d'être enterré là-bas. Ah, alors là, tout le monde dit, mais attendez, excusez-moi, monsieur Esav, vous avez vendu votre droit d'aînesse. Et ça avait dit, ah bon, vous avez une preuve? Il dit, bah oui, on a le document que tu as signé. Il dit, ah bon, sans preuve, moi, je ne fais rien, je ne bouge pas. Et donc, ils envoient Naphtali, courent très vite, Ayala Shlucha. Et ils traversent toute la péninsule du Sinaï Il arrive en Égypte, il récupère le papier, il revient. Mais bon, ça prend du temps. Pendant tout ce temps-là, on attend. On attend. À ce moment-là, il y avait, donc imaginez-vous, papier Yaakov qui est en train de, enfin, qui est mort, quoi, qui est là, qui attend d'être enterré. Et il y a un homme qui s'appelle Hushin. Hushin est le fils de Dan, donc le petit-fils de Yaakov. Il me dit la Torah qu'il était un petit peu limité, on va dire, mentalement. Il est également sourd et muet. Et donc, il comprend pas ce qui se passe. Et il essaie de communiquer avec ses frères, ses oncles. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on n'enterre pas papy? Et on essaie de lui expliquer. Il comprend pas très bien. Alors, on lui montre Essav. On lui dit c'est de sa faute. Et là, à ce moment-là, eh ben, c'est pas compliqué. Le mec, il arrive, il prend une lance, et il décapite Essav. La tête va rouler dans la Meharat à Marpella. À ce moment-là, nous dit le Midrash que Yaakov a souri. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Essav, sa tête, les idées de Essav du monde occidental peuvent avoir leur place dans la Meharat à Marpella. C'est leur corps, c'est-à-dire leur réalisation qui sont en plein de Touma et de négativité. Mais l'idéal que représente l'évolution du monde occidental peut avoir sa place. Donc il y a les trois patriarches avec leurs femmes, les matriarches, et il y a également la tête de Essav. On remarquera, nous dit le Gaon de Vilna, que pour les six premiers, donc on dit Kevor et Metecha, on dit d'abord Kevor, en terre, et seulement après Metecha. Comme si on voulait dire que quand ils sont enterrés, ils sont vivants. On dit oui, Tzadikim, Afilo Bemitatam, Nikraim Chaim, les Tzadikim, même dans leur mort, ils sont appelés vivants. Et donc, ils vont mourir simplement juste deux secondes avant Triatametim, histoire de dire que Mbaim et Triatametim, histoire de dire qu'ils ressuscitent. Alors que le dernier Remez, le septième, on dit et Metra Kevor. On met d'abord le mot mort avant l'enterrer. Et là, on fait allusion à Esav, parce qu'on dit que les Réchaïm, même dans leur vivant, ils sont appelés déjà morts. C'est magnien. Donc, une fois qu'on a terminé l'idéal de l'enterrement de Sarah, on a pris possession de la terre d'Israël, il y a Femod. Maintenant, il est temps de s'occuper du deuxième pilier fondamental. Il y a Eretz Israël, la terre d'Israël, mais il y a également Am Israël. Il va falloir donc maintenant se concentrer sur la suite, la succession d'Abraham. Maintenant, c'est clair que c'est Yitzhak, mais Yitzhak seul n'arrivera pas à construire le peuple juif. Il a besoin d'une femme. V'Avraham zaken ba bayamim, v'Hashem berach et Avraham bakol. Vas-y, v'Hashem berach et Avraham bakol. Dieu a béni Abraham en toutes choses. Nous dit Rashi, il y a trois avis dans le Talmud. Nous dit Rashi, un des trois avis. Que Bakol, en Gematria, ça fait 52, et c'est la Gematria du mot Ben. Donc c'est quoi que Dieu a béni Abraham en tout? Il lui a donné un fils. Première explication. Deuxième explication du Talmud, c'est que Abraham avait une bat, avait une fille, et cette fille s'appelait Bakol. Ah bon? Bon, en même temps, tu me diras, on connaît bien des Nicole, donc pourquoi pas des Bakol? Sauf que, à cette explication du Talmud, le Ramban vient et dit hop, 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 hop. Ne crois pas que quand nos sages nous disent qu'Abraham avait une bat, ça veut dire qu'il avait une fille. Non, le mot bat, à l'époque, c'est une unité de mesure. Donc on est en train de te dire qu'Abraham avait une qualité, une mesure, qui s'appelait bakol, la dimension de klalout, de généralité. Kolel. Ça, c'est un deuxième avis. Qu'Abraham avait donc une qualité qui s'appelait la kolelout. Et troisième avis du Talmud, Mazé Vashem Berach et Avraham Bakol, chez Loaïta Lobat, qu'il n'avait pas de fille. Alors, moi, je vous parle, j'ai trois filles. C'est extraordinaire d'avoir des filles. Les filles, c'est la simcha, les filles, c'est la beauté, les filles, c'est tout ce que tu veux. C'est le kef, quoi. Ta fille, c'est la folie. T'as l'air. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que la bracha d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'Avraham n'ait pas de fille. Parce que le point commun des trois explications, il avait un fils, il avait une qualité, il n'avait pas de fille. Dans les trois, il n'a pas de fille. Eh bien, en fait, c'est génial d'avoir une fille, mais pas quand on est Abraham. Quand on est Abraham, ou Yitzhak même, on est en train de mettre en place l'identité d'Israël. Elle a besoin de trois piliers qui s'appellent Abraham, Yitzhak et Yaakov. Quand on est en train de mettre en place l'identité d'Israël, il faut faire très attention à une chose. À l'époque, la société est patriarcale. C'est le papa de la famille qui donne le ton. Si Abraham a une fille, il va falloir la marier. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir rentrer une identité extérieure à l'identité hébraïque d'Israël. Il ne faut donc pas qu'il ait de fille à ce moment-là. Mais une fois que les piliers sont là, Abraham, Yitzhak et Yaakov, Yaakov a une fille. Yaakov a Dina. Et donc, ça veut dire que maintenant, c'est le moment, une fois que l'identité est consolidée, qu'on peut faire venir de l'extérieur, après évidemment qu'ils aient accepté de s'intégrer au peuple juif, mais on peut faire venir des idéaux différents. Abotai, Yitzhak doit se marier. Et donc, on envoie Eliezer chercher une femme pour Yitzhak. Cette femme, elle doit avoir une qualité. Chesed. Midat Chesed. Yitzhak étant kol kulo midat din, Yitzhak étant la rigueur par excellence, il a besoin de la contrebalance, il a besoin d'une femme qui est kula Chesed. Abraham était totalement Chesed, Sarah était midat din. On a besoin de l'inverse ici. Et donc, ce que demande Eliezer comme preuve, eh bien, c'est si jamais, comment je saurais que j'ai trouvé la bonne? Si je demande à une femme, tu peux me donner à boire à moi et à mes chameaux? Et bonne cola olamim, un chameau, ça boit. Eh bien, c'est la preuve que Behemet, Zemidat Achesed, si la demoiselle, elle est prête à donner à boire à 10 chameaux, qu'un chameau, ça boit, je ne sais pas combien, à peu près 200 litres d'eau. Il faut puiser de l'eau, hein? Donc, si elle dit ça, qu'elle est prête à faire ça, ça montre bien à quel point elle est Midat Achesed. Rivka arrive, c'est ce qu'elle fait à Koltov. Seulement, comment la Torah nous présente Rivka? Eh bien, la Torah nous présente Rivka comme étant Me'od, Yafa. Ine, Ve'anehara Tovat Mare Me'od. Rivka, on la présente comme étant super belle. Lama c'est chashuv. Lama c'est chashuv de savoir qu'elle est belle. D'ailleurs, ce n'est pas que Rivka. Sarah, on nous a dit qu'elle était belle. Rachel, elle est belle. Léa, elle est belle, on ne nous le dit pas, mais elle est belle aussi, c'est la jumelle de Rachel. De plein de femmes dans le Tanakh, on nous dit qu'elles étaient très belles. Lama c'est kol kach chashuv. Pourquoi est-ce si important de dire que les femmes d'Israël, les matriarches, les tzadikot de toutes les générations, étaient belles? Mes amis, c'est tellement important. Parce que dans le judaïsme, l'idéal, c'est l'harmonie. Hachem Echad. En d'autres termes, la beauté extérieure doit être l'expression de la beauté intérieure. Lorsque Shlomo HaMelech écrit Eshet Chayil, il termine en disant Sheker Achen Vehevel Ayofi. Ishaïr Atashem Ititalal. Mais qu'est-ce que ça veut dire Sheker Achen Vehevel Ayofi? Sheker Achen. Achen? Achen, c'est Behemet Sheker. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mazechen. Oh, Mazechen, je vais te dire. Chen, c'est Chinam. Chen, c'est la grâce. La grâce, c'est gratuit. C'est-à-dire que ce qui est chen, c'est l'eau beau. Chen, c'est l'eau yafé. C'est l'eau. Yafé, c'est yafé. Chen, c'est chen. Quand on dit d'une jeune fille qu'elle est mignonne, ça veut dire qu'elle n'est pas jolie, à nos yeux. Sinon, on dirait qu'elle est jolie. Vatei Esther noset chen bechol roea. Dit Esther à Malka qu'elle était dans cette reine. De là, Chazal vont dire qu'elle n'est pas forcément belle, ou qu'elle est forcément pas belle. Et de là, ils vont montrer qu'il y a une intervention divine, ce que tu veux. Chen zechen. Et donc, nous dit Shlomo, Sheker achen. C'est pas bémet. Aval yofi, Shlomo ne nous dit pas ze Sheker. Non, 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 ze emet yofi. Aval ze hevel. Hevel, c'est de la fumée. Mais pas n'importe quelle fumée. C'est la fumée qui sort de la casserole. La fumée qui sort de la casserole, il fait méode. Oui, mais attendez. S'il n'y a rien dans la casserole, il n'y a pas de fumée. C'est-à-dire, si tu mets une casserole sur le feu et que tu ne mets rien dedans, il n'y a pas de fumée qui sort. Bon, à un moment donné, la casserole, elle va exploser. Mais il n'y a pas de fumée qui sort. Nous, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, je te dirais non. C'est vrai qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais pour qui? Il faut un troisième élément. Il n'y a pas de fumée sans un truc à l'intérieur du truc qui est sur le feu. C'est-à-dire, à Hevel, la fumée qui sort de la casserole exprime qu'il y a quelque chose dans la casserole. En d'autres termes, s'il y a Hevel, c'est qu'il y a quelque chose dedans. Ou en d'autres termes, si tu es yafé à l'extérieur, ça doit vouloir dire que tu es yafé à l'intérieur. L'idéal du peuple d'Israël, c'est de montrer la relation entre ce qu'on appelle Tocho et Baro, l'intériorité et l'extériorité. Dans le monde idéal, il y a une atama, une cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Ah, vous allez me dire, ouais, mais c'est plus toujours comme ça aujourd'hui. Il peut y avoir des gens très beaux et très pourris à l'intérieur, et des gens très moches de l'extérieur, mais très bien à l'intérieur. C'est l'exil qui a fait ça. L'exil nous a annulé cette harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. Si bien qu'on va avoir cette histoire dans le Talmud où on voit un des Amoraïm qui est pris à partie par une aristocrate romaine qui lui dit « Comment c'est possible que tu sois tellement intelligent alors que tu es tellement moche ?» Et il lui donne une explication, une histoire de vin qu'on garde dans des ustensiles en argile et pas en or. Mais ça, c'est à cause de l'exil. Dans un monde idéal, le monde où la Shrina est présente, où le dévoilement divin est présent, alors il doit y avoir cette corrélation. Et c'est ce que représentait Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit le Talmud qui était incroyablement beau. Et il était le dernier vestige, de la beauté du premier temple, du monde avec la présence divine. Rabotai, nous sommes aujourd'hui en train de retrouver cette beauté-là. Am Israël redevient beau. Am Israël, pas seulement, le monde. Le monde, c'est une culture de la beauté. De la beauté extérieure. Alors évidemment, quand c'est mal utilisé, c'est tourné uniquement dans le côté uniquement physique, et ça devient paroutz, ça devient patiniout, c'est ce que tu veux. Mais le fait que maintenant on comprenne qu'il faut mettre en avant cette dimension de beauté extérieure, c'est pas forcément négatif. C'est négatif dans la façon dont c'est fait. On a dit la tête d'Esav et les mains de Esav. Mais ça peut être extrêmement positif si cette beauté extérieure, pas provocante, mais beauté tout simplement, eh bien révèle quelque chose d'intérieur. Et c'est le propre du peuple d'Israël de révéler qu'il doit y avoir une osmose entre l'intériorité et l'extériorité. Le mariage de Yitzhak et de Rivka permet de déterminer une chose. Am Israël devra, ça sera son rôle, de dévoiler que Hachem Echad, qu'il n'y a donc pas de séparation entre Toro et Baro. Si le premier pilier de la paracha était la prise de conscience et d'enracinement dans la terre d'Israël, la deuxième partie de la paracha, le mariage, le shidour de Rivka et de Yitzhak, est évidemment tourné vers cette ambiance-là, que Am Israël doit maintenant dévoiler une harmonie dans le monde. Tout simplement. Lorsque Rivka voit Yitzhak pour la première fois, elle se met un tsaïf. Elle se couvre, comprenant que cette beauté-là, eh bien, elle est réservée à quelque chose de grand. Elle est réservée, justement, à sa relation avec Yitzhak. Parce que c'est de cette relation que va naître un peuple beau, un peuple grand, un peuple qui dévoile la Kadosh Baruch Hu dans le monde. Chaye Sarah se dévoile et se concrétise dans Chaye Rivka. En fait, le nom de la paracha est complètement tourné vers ce que Rivka amènera dans la maison de Sarah. C'est la raison pour laquelle Yitzhak l'emmènera dans sa maison et dans la tente de sa mère défunte. Et c'est là-bas qu'il dira qu'il peut se consoler de sa maman et avec sa nouvelle femme, construire l'avenir du peuple juif. Shabbat shalom, les koulam.